Bonjour, à Tire-d'aile, l'émission de la LPO Aveyron présentée par Jean-Claude Issali, bénévole et administrateur. À l'ordre du jour, les hirondelles. Les hirondelles sont associées au printemps, ce qui est vrai car les hirondelles sont des oiseaux migrateurs. Et du coup, lorsqu'elles rentrent d'Afrique, qu'elles reviennent chez nous, mais c'est vrai que c'est signe de printemps. Donc les premières arrivent fin mars. Et après, elles sont échelonnées sur le mois d'avril. Et c'est vraiment un émerveillement que de les observer. Donc, je vais vous présenter quelques généralités sur les hirondelles. Et puis, nous verrons les différentes espèces d'hirondelles. L'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rocher, l'hirondelle de rivage. Et on verra ensuite quelles actions on peut éventuellement conduire pour les aider. Donc quelques généralités sur les hirondelles, globalement. Donc, les hirondelles migrent vers l'Afrique dès l'automne afin de passer l'hiver dans de meilleures conditions et de trouver des bonnes ressources alimentaires. Elles reviennent donc au printemps, comme c'est le cas pour de nombreux oiseaux migrateurs. L'hirondelle revient dès les premiers beaux jours. Donc, l'hirondelle rustique, ça va être dès la fin mars. L'hirondelle de fenêtre plutôt début avril, l'hirondelle de rocher elle est assez précoce aussi, et l'hirondelle des rivages bon, c'est à peu près aussi dans les mêmes clous, plutôt en avril. Voilà, elles font des parcours relativement imposants puisque certaines peuvent faire plus de 10 000 km puisqu'il y en a qui hivernent quand même jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, donc quand elles rentrent, c'est le moment qu'elles choisissent pour construire ou pour retrouver leur nid, parce qu'elles reviennent au nid qu'elles ont occupé l'année précédente ou vers le nid où elles sont nées. Et après, elles vont essayer de se faire une place si leur place est déjà prise. Elles peuvent nicher sous une charpente, sous un porche d'une entrée, sous un pont, dans une grange, des fois sous un coin de fenêtre, sous des bordures de toit. Enfin, on verra cela selon les espèces. Donc l'hirondelle revient en général à l'endroit où elle est née ou à l'endroit où elle s'est reproduite. C'est le mâle qui choisit le site où le nid doit être construit. Donc il arrive le premier et il est rejoint par la femelle quelques jours ou une semaine plus tard. Le couple normalement reste lié toute la vie, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait des fois des accouplements extra-conjugaux. On note cependant que la femelle reste sous la vigilance de son compagnon car celui-ci n'apprécie guère qu'elle copule avec un autre mâle. Le couple d'hirondelles construit le nid après avoir formé des boules de boue qu'elle malaxe dans sa bouche, à l'arrière de son bec, avec sa salive, mais... c'est important qu'elle puisse trouver quand même de la boue, enfin une certaine humidité. On verra que dans les actions qu'on peut conduire, si on a un printemps très, très sec, on peut faire des flaques, essayer de remuer un peu de la terre ou de la glaise, et pour qu'elle puisse venir chercher ce qu'il leur faut pour construire le nid dans de bonnes conditions. Sinon, après, on a des nids qui se délitent, qui ne tiennent pas, et il peut s'effondrer avant la fin de l'envol des jeunes, ce qui est toujours préjudiciable. Et dans cette boue, elle y rajoute plein de brindilles, de paille, de radicelles, de brins de foin, et voilà. Après, en général, une bonne semaine de travail pour construire le nid, donc le nid est prêt à être garni de duvets, de plumes ramassées principalement dans les basses-cours, mais aussi, j'ai vu des hirondelles attraper des petites plumes qui volaient au vent, les capturent en quelque sorte, ou elles les attrapent en vol. Il est relativement solide, il est réutilisé d'année en année par les mêmes hirondelles, s'il n'a pas été détruit entre-temps, bien sûr. Alors, mais bon, à force, quand même, les nids ont tendance à s'effondrer, mais au bout de 7, 8 ans, 10 ans. Les hirondelles pondent de 4 à 6 œufs, exceptionnellement 7. Ce sont des œufs qui pèsent moins de 2 grammes. En général, ils sont clairs et tachetés de gris ou de roux. et selon les espèces, la femelle couve toute seule ou elle est relayée par le mâle. L'incubation, c'est toujours autour d'une quinzaine de jours. Les hirondos atteignent leur poids adulte, pareil, un peu à 15 jours ou légèrement avant, soit autour de 20 grammes, 22 grammes peut-être pour les hirondelles rustiques et les hirondelles de rocher. Et les hirondos quittent le nid à l'âge de 18, 20 jours, 23 jours, grammes maxi. Mais ils sont encore nourris par les parents pendant une grosse semaine, voire une quinzaine de jours. Et petit à petit, ils acquièrent leur indépendance par la suite. Voilà, les hirondelles peuvent faire 2 couvées par an, voire 3. Il en a même été noté 4 par endroit, mais c'est assez exceptionnel. Il est assez fréquent de voir des jeunes hirondelles de la couvée précédente qui prêtent main forte à leurs parents pour donner la béquée au deuxième ou au troisième niché. Voilà, les jeunes ont dit qu'ils deviennent indépendants autour d'un mois, un mois et demi. Les adultes, les parents sont très attentionnés. Ils se partagent l'éducation de leurs hirondos et ils n'hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres, voire jusqu'à 300 km par jour pour trouver la nourriture riche en protéines dont les oisillons ont besoin pour grandir, pour devenir autonomes, puis être après, bien sûr, prêts à migrer à l'automne. Donc pour cela, les petits doivent accumuler des réserves de graisse suffisantes grâce à des aliments parfaitement choisis par leur père et leur mère. Lorsqu'elle chasse l'hirondelle, que ce soit le mâle ou la femelle, pour nourrir sa nichée au nid, elle emmagasine ses proies dans sa bouche, dans l'arrière de son bec, pour ne pas multiplier les trajets. Et une béquée peut compter 10, 15, 20, 25 insectes. Malgré tout, les allers-retours des parents peuvent se répéter plusieurs centaines de fois par jour, et il a été noté jusqu'à 400 fois par jour. Alors les hirondelles, elles sont très très adaptées au milieu aérien. D'ailleurs, elles ne se nourrissent qu'en vol. Elles capturent des insectes donc volants. Elles ont des ailes longues et étroites qui leur permettent un vol soutenu. Il ne faut pas les confondre avec les martinets hein, qui ont les ailes beaucoup plus en forme de faux. Voilà, qui sont un peu plus gros, beaucoup plus rapides aussi. Donc les ailes des hirondelles leur permettent de faire de longues distances puisque elles sont migratrices et qu'elles peuvent faire plus de 10 000 km pour aller hiverner. Ces ailes longues et étroites leur permettent également une grande agilité dans l'air pour capturer les insectes volants. Elles alternent des phases de vol battu, de vol plané, elles virevoltent, elles tournent sur l'aile, elles plongent. Elles peuvent partir en chandelle à la poursuite des insectes. Voilà, pour boire, en fait, elles vont survoler des plans d'eau, des petits étangs, même des piscines parfois. Et elle se laisse glisser, elle relevée, au-dessus de la surface de l'eau, qu'elle effleure du bec. Les martinets font la même chose aussi. Lorsqu'elle est posée au sol, en particulier lorsqu'elle récolte de la boue pour le nid, son envol, son essor est un peu laborieux parce qu'elle est gênée par ses longues ailes et les pattes qui sont relativement courtes. Les différentes espèces d'hirondelles. Donc on en rencontre 5 en France et 4 chez nous. Donc l'hirondelle rustique, que l'on appelle aussi l'hirondelle de cheminée, et qui niche principalement dans les étables, mais qui peut nicher aussi dans les garages, les caves, etc. Mais il faut que ce soit relativement ouvert. L'hirondelle de fenêtre, qui niche surtout sous les bordures de toit. L'hirondelle de rocher et l'hirondelle de rivage. La taille de toutes ces hirondelles est assez similaire, hein, 14 à 18 cm de longueur. Leur envergure, une trentaine de centimètres, peut-être un petit peu plus pour l'hirondelle rustique. Et leur poids est autour de 20 grammes. Et l'hirondelle rustique et l'hirondelle de rocher sont peut-être un petit peu plus lourdes, autour de 22 grammes. Donc la première dont je vous parle, c'est l'hirondelle rustique. Un corps fuselé, les ailes en faucille, une queue fourchue. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de la reconnaître. C'est un peu, le modèle des hirondelles. Hein. C'est celle qui est la plus commune dans nos campagnes, celle qui niche principalement dans les fermes, souvent non loin des animaux, dans les étables, les écuries. Mais bon, comme je le disais, ça peut être aussi dans d'autres lieux, comme des garages qui ont une fenêtre qui reste ouverte, ou des caves qui ont des fenêtres qui restent ouvertes aussi, des anciennes étables. Des fois dans des halls d'immeubles aussi, mais bon, c'est plutôt quand même à la campagne. L'adulte a le dessus du corps et les plumes sur le dos qui sont noirâtres avec des reflets bleutés, qu'on voit bien quand on a une bonne lumière. Les plumes des ailes, les rémiges, les plumes de la queue, les rectrices sont plus brunes et ont moins de reflets ou pas de reflets. Et le dessous du corps est blanc cassé, je dirais blanc teinté de crème. La tête montre un front et une gorge couleur brique typique. Et il y a sur les côtés et au-dessous de la gorge un genre de collier brun qui enserre donc toute cette partie roussâtre et qui inclut le bandeau noirâtre autour de l'œil aussi. Et la queue est pourvue de rectrices, donc de plumes noirâtres à larges taches blanches qu'on voit bien quand elle étale bien sa queue. La queue est fourchue. Donc elle est très fourchue, c'est ce qui va la caractériser aussi. Et les rectrices externes, c'est-à-dire les plumes de la queue qui sont les plus à l'extérieur, sont très longues. Elles s'amincissent pour former ce qu'on appelle des filets très étroits. Le bec noir est petit, mais il est large. Donc c'est vrai que ça lui donne un gros accès à la cavité buccale, c'est-à-dire que pour capturer des insectes en vol, il faut qu'elles ouvrent très grand leur bec et leur bouche. Les pattes sont très courtes et sont noirâtres. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre le mâle et la femelle, est faible. Le mâle, en fait, il a les filets qui sont nettement plus courts que ceux de la femelle. Et quand elles sont posées toutes les deux sur un fil électrique ou sur un support pas trop loin, comme ce sont des oiseaux qui sont quand même, en général, assez près de l'homme, on peut voir la différence. Les filets du mâle font facilement un bon centimètre de plus que ceux de la femelle. Et les juvéniles, donc après leur envol, elles ont quand même le front et la gorge fauve rosé, c'est pas aussi roux que les adultes. Et par contre, elles n'ont pas les filets à la queue, elles ont la queue fourchue, mais elles n'ont pas les filets. Et le chant est un long gazouillis, grésillant, mais assez mélodieux. Et dans ce chant, on retrouve les tonalités des cris qu'elles font quand elles volent, quand elles parcourent leur territoire. Et souvent, ça se termine par une syllabe étirée en tri un peu grinçante. Elle émet des petits cris caractéristiques en vol. Elle a aussi un cri d'alarme qui est assez typique. Donc, on va écouter un petit peu son chant. C'est un chant extrêmement doux, extrêmement apaisant, très agréable à écouter. L'hirondelle rustique, pour se nourrir, a besoin d'espaces très dégagés, comme les terres agricoles, mais aussi les zones humides. Et bon, elle est surtout à des altitudes inférieures à 1000 mètres, mais on peut la trouver quand même en montagne assez haut. Donc les zones humides, les plans d'eau jouent un rôle essentiel, parce que quand les conditions climatiques sont difficiles, elles vont avoir tendance à se concentrer sur ces zones humides. D'ailleurs, elles peuvent chasser avec d'autres hirondelles dans ces cas-là, parce que ce sont des zones qui sont quand même très très riches en petits insectes, moustiques, moucherons et autres. Et puis sur les plans d'eau, elles peuvent s'abreuver aussi. Voilà. Pour la reproduction, en fait, elle est très dépendante de l'homme et de ses constructions, parce qu'elle affectionne les fermes et les villages plutôt à la campagne. Elle aime bien les zones un petit peu confinées, c'est-à-dire qu'elle rentre par une petite ouverture et elle peut nicher dans un bâtiment relativement loin de la sortie, quoi. Dans les écuries, les étables, les granges, les garages, autres lavoirs. Voilà. Et ça peut arriver aussi sous des porches dans les villages. Voilà, des endroits où elle va trouver de bonnes conditions pour construire son nid. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que cet espace soit accessible en tout temps. C'est-à-dire que si vous avez des hirondelles qui nichent chez vous dans un garage ou un étable, faut bien faire attention à partir de mi-mars de laisser une ouverture pour qu'elles puissent rentrer et sortir comme elles veulent, quand elles veulent. Voilà, c'est pour ça aussi qu'elles nichent plus rarement à l'intérieur des maisons ou des appartements, bien sûr. La présence de fils électriques et téléphoniques est très favorable parce qu'elles s'en servent beaucoup comme perchoir. Elle est un peu plus rare en ville, probablement dû au fait que les zones de chasse sont plus éloignées et que peut-être les sites de nidification sont moins communs, moins faciles à trouver. On pense qu'avant que l'homme ne se mette à construire, elle devait utiliser des grottes ou des très grands surplombs, et qu'elle était peut-être beaucoup plus rare que ce qu'elle était ce dernier siècle, quoi. Après la nidification, en période de migration, les hirondelles rustiques ont l'habitude de se rassembler pour passer la nuit en groupe, souvent au bord de l'eau, souvent dans des roselières. L'hirondelle rustique, on dit que c'est une espèce anthropophile parce qu'elle ne craint pas l'homme et qu'elle niche à sa proximité, et souvent très très près. Et d'ailleurs, on peut voir des fois des hirondelles qui nichent sur des poutres à très faible hauteur. Et elles ont vite vu quelles sont les habitudes des humains. Et on peut passer souvent, des fois, à moins d'un mètre de distance sans qu'elles bougent quand elles ont pris l'habitude et qu'elles connaissent nos habitudes. C'est une espèce assez grégaire qui peut se rassembler en grand nombre, surtout quand on s'approche du départ vers la migration. Voilà, donc le territoire de nidification est réoccupé en général assez à tous les ans, quoi. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu quand même pas mal d'effondrements des populations. On peut essayer d'attirer chez soi à la campagne un couple d'hirondelles. Il suffit de disposer d'un espace tranquille, un garage ou un débarras, voilà, avec un accès permanent, ce que je vous disais il y a quelques secondes. Il vaut mieux par contre éviter d'avoir des chats à la maison si on a des hirondelles qui nichent, parce qu'ils ont vite repéré quels sont leurs manèges et comment elles fonctionnent, et ils savent se positionner pour les capturer en vol. Voilà, c'est vrai que quand on en a chez soi, c'est vrai, on ne se lasse pas de les observer et de voir leur comportement. Donc, je disais aussi qu'on peut favoriser leur nidification et la construction du nid en ménageant des petites flaques boueuses dans un environnement assez dégagé, toujours, pour que ce ne soit pas un piège et qu'elles ne se fassent pas capturer par un chat ou autre. Voilà, malheureusement, des fois, il y a des périodes d'intempéries très longues. Et là, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne peut pas leur donner des compléments. Et quand il n'y a pas d'insectes pour nourrir leurs jeunes, il peut y avoir quand même des fois quelques catastrophes. Et maintenant, une petite coupure musicale avec John Lennon et Imagine.
I wonder if you can brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
Vous nous rejoignez ? Donc vous écoutez À Tire-d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron, aujourd'hui consacrée aux hirondelles. Donc l'hirondelle de fenêtre, donc deuxième hirondelle, qui cohabite avec l'hirondelle rustique, du coup on peut les comparer assez facilement. L'hirondelle de fenêtre est un peu plus petite, elle est bicolore, c'est-à-dire qu'elle est... Enfin, elle paraît noire, avec le croupion blanc très visible, et tout le dessous du corps blanc, donc ce qui nous permet vraiment de la différencier. Voilà, tout le dessous du corps est blanc, y compris les sous-alaires, donc les plumes qui sont sous l'aile. La queue est nettement fourchue, mais elle n'a pas de filet. Elle a aussi de toutes petites pattes qui sont emplumées, ce qui est assez particulier. Ouais. Et le juvénile est plus terne, plus brun. Le chant émis près du nid est un babil prolongé qui n'est pas sans rappeler celui des hirondelles rustiques, mais un petit peu moins sonore et sans les syllabes rêches. Écoutons-le. Voilà, c'est trop peu de temps pour continuer à développer toutes les caractéristiques de l'hirondelle de fenêtre. Mais je vous propose de nous retrouver lors de la prochaine émission pour compléter un petit peu notre vue sur ces hirondelles-là. L'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rocher, l'hirondelle de rivage. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller sur le site de la LPO Aveyron ou n'hésitez pas non plus à appeler nos salariés qui se feront un plaisir de vous renseigner. Merci. Thank you.